Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La cybercoercition. Retenez ce concept, il fait dorénavant partie du vocabulaire des guerriers digitaux. Comme pour la menace nucléaire, la cybercoercition consiste à montrer à vos adversaires que vous êtes capable de leur infliger de très lourdes pertes. Il s'agit donc d'une dissuasion numérique. En revanche, contrairement à la bombe atomique, la cybercoercition est une arme d'emploi. Vous devez rendre coup pour coup. Pour en parler, je reçois l'un des auteurs de ce nouveau concept. Bernard Barbier dirige la société de conseil et d'études BB Cyber et il est ancien directeur technique des services secrets français. Bonjour Bernard Barbier. Bonjour. Donc vous êtes le co-auteur, je disais, avec un ancien du Quai d'Orsay, Jean-Louis Gergorin, et un ancien aussi chef d'état-major des armées, Édouard Guillot. Votre définition de cette cybercoercition?
Alors ce mot cybercoercition, en fait, est arrivé... Nous avons depuis 3-4 mois engagé des discussions à trois. En fait, nous sommes trois personnes totalement différentes. Hein. Et ce mot, finalement, est apparu dans nos discussions. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, pour dire simple, bon, c'est d'influencer des dirigeants d'un pays par des attaques cyber, par des actions cyber. Hein. Donc la définition du mot coercition, c'est influencer, faire pression contre un dirigeant, contre des personnes, pour entraîner finalement une dépendance, ou en tout cas pour engager finalement une action de force, mais non numérique, c'est-à-dire non violente, hein, ce n'est pas une arme.
Mmh. Voilà. Alors contrairement à la doctrine nucléaire, la cybercoercition, c'est une arme d'emploi, et non pas de non-emploi.
Alors pour moi, la cybercoercition, c'est vraiment une arme totalement miroir du nucléaire, c'est-à-dire c'est une arme d'emploi, c'est une arme, donc c'est pas une arme, c'est une arme d'emploi, c'est une arme qui permet d'engager une pression contre un pays, et c'est complètement, disons, symétrique en miroir de l'arme nucléaire. Donc, et on doit être capable de l'utiliser, donc c'est une arme qu'on doit utiliser pour démontrer son efficacité.
D'accord. Donc c'est la guerre dans le cyberespace, très concrètement. Vous dites que jusqu'à présent, la position, la doctrine française, même si elle s'est améliorée avec un discours de la ministre en janvier 2019, elle était essentiellement défensive. Vous dites que ça s'est passé et il faut passer à l'offensif.
Actuellement, en fait, le ministère des Armées a défini un concept qui est un concept d'emploi, je dirais, dans le cadre d'un conflit armé. Donc c'est une arme supplémentaire dans le cadre d'un conflit armé. Donc la loi française qui permet d'engager cette arme est clairement définie le périmètre dans un conflit armé. Et nous, on estime que compte tenu de l'évolution de ce qu'on constate, hein, donc de l'état de la menace, cette menace n'est pas uniquement, c'est pas une menace armée, c'est pas une menace militaire, c'est une menace stratégique pour notre pays.
Ça concerne donc au-delà des installations militaires, ça concerne les installations civiles d'entreprises.
Donc face à des actions qui peuvent être extrêmement, qui ont un potentiel extrêmement négatif, coercitif d'un pays, on estime que cette arme doit être employée contre des pays, hein, ou des groupes mafieux dépendants de pays qui peuvent infliger à la France des dégâts majeurs. Mmh. Et pas uniquement dans le cas d'actions militaires.
Mmh. Donc ça veut dire un repositionnement complet, puisque vous nous faites remarquer qu'en effet, il y a des instruments, des outils qui sont prépositionnés dans des installations qui peuvent servir contre nous à saboter ces installations. Et vous nous dites qu'on doit faire, nous, les Français, les Européens, la même chose.
En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Poupard, il y a un an, lors du FIC, a clairement parlé d'un plan.
Mmh. Guillaume Poupard, il dirige la sécurité informatique en France, l'ANSSI.
En France, l'ANSSI, ouais. Qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc il a clairement dit publiquement que nous avions détecté ce qu'on appelle des implants, c'est-à-dire c'est des malwares, hein, des logiciels informatiques qui sont là pour casser les systèmes, donc ils sont prépositionnés par des puissances étrangères. En cas d'action, en fait, c'est ce qu'on peut appeler du ciblage. En fait, c'est en termes militaires, c'est ce qu'on peut appeler un ciblage.
La Chine?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a certains pays et peut-être même, pourquoi pas, des pays alliés, parce que finalement, ça devient une arme de guerre, en fait.
Hein. Mmh. Donc, vous nous dites qu'il y a des pays alliés,
je ne sais pas,
adversaires qui prépositionnent des implants et nous? Est-ce qu'on en prépositionne aussi?
Là-dessus, je ne fais pas, je ne suis plus du tout depuis 6 ans dans le domaine, mais je pense que, a priori, mais la France a déclaré clairement que sur ce sujet-là, elle n'était qu'essentiellement dans une position défensive. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas justement, dans le cas d'une réaction à cette cybercoercition, mettre des implants chez des adversaires potentiels, hein, pour leur montrer que voilà, nous pouvons aussi leur infliger des dégâts majeurs.
Pour ça, faudrait
ce que j'ai compris, c'est que ce qu'ont fait les Américains, visiblement, contre certains pays.
Pour ça, il faudrait utiliser, par exemple, nos entreprises européennes, Nokia, Ericsson, qui vont participer à l'équipement, notamment sur la 5G, et leur demander d'accepter ces implants. On est d'accord, c'est dans ce type de stratégie.
Non, je pense qu'il n'y a pas de... Sur ces sujets-là, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas compromettre des entreprises. Je pense qu'il faut vraiment faire la séparation.
Mmh. Pourtant, on compromet Huawei, très clairement.
Non, Huawei, je pense que notre idée... On a discuté aussi longuement avec... Le danger de Huawei, c'est que Huawei est une entreprise privée indépendante, mais...
reliée à l'État.
Très reliée à l'État, et j'ai, compte tenu du fonctionnement de l'État chinois actuellement, je pense que l'État chinois a recruté des sources au sein de Huawei qui ont quasiment les manettes, mais peut-être à l'insu du plein gré de Huawei. Mmh. Mais c'est sûr, je pense que voilà.
Donc vous vous dites, faut pas utiliser nos forces, c'est-à-dire des Nokia, des Ericsson.
Non, il faut pas les compromettre.
Faut pas les compromettre.
Parce que je pense que c'est...
c'est différent.
C'est totalement différent. C'est-à-dire que ces actions doivent être des actions secrètes, doivent se faire par l'État, pas par des entreprises. C'est la responsabilité de l'État de défendre un pays. Hein, c'est pas, on n'est pas dans des milices privées, donc c'est vraiment l'État qui doit avoir cette responsabilité par des moyens techniques extrêmement sophistiqués, mais qui doit se faire sans compromettre nos entreprises.
Mais on les a, ces moyens techniques, parce que vous nous dites aussi qu'on est quasiment dépendant des technologies américaines et israéliennes. Donc on les a ou on les a pas?
Je pense que d'un point de vue technique, je dirais matière grise, nous avons des ingénieurs extrêmement brillants. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres pays, hein, avec les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Israéliens, et nos ingénieurs sont au très beau niveau.
Oui, mais est-ce qu'on produit des produits? Est-ce que
voilà, notre problème, c'est notre organisation. Voilà. C'est-à-dire que nous avons une organisation dispersée, et puis nous n'avons pas non plus compris que derrière, il y a un enjeu économique énorme.
Ouais.
Actuellement, nous avons un déficit commercial gigantesque dans les outils cyber, hein, puisque tous les logiciels... 95% des logiciels achetés par les entreprises ne sont pas d'origine européenne.
Hein. Même pas européenne, vous dites.
Non, il n'y a aucune entreprise européenne. Il y en a 2 ou 3. Et par rapport aux licornes, hein, ce qu'on appelle les licornes, c'est des entreprises qui ont une valorisation supérieure aux milliards, de dollars ou d'euros. Il n'y a aucune licorne européenne dans la cyber, alors qu'il y en a à peu près presque 40 si on regarde les israélos, ce que j'appelle les israélo-américains.
Donc là, on est vraiment dépendant de pays tiers à l'Union européenne.
Pour moi, on a un gros problème de dépendance et d'autonomie, et je pense que là, il faut complètement inverser le mouvement. Alors,
et comment on s'y prend?
J'ai bon espoir. Bon, compte tenu, on voit que quand même les choses bougent. Merci Monsieur Trump. Hein. Finalement, il fait bouger l'Europe. Je vois que le commissaire Breton, visiblement, veut faire vraiment bouger les choses. Je pense qu'au niveau européen, on est quand même extrêmement puissant, fort. Le problème qu'il y a, c'est que voilà, nous sommes 27 pays, donc le marché est fragmenté, alors que le marché américain est plutôt unifié. Voilà.
Question d'argent ou de volonté?
Non, c'est les deux, en fait. C'est une question d'argent et de volonté. C'est-à-dire que ce qui manque actuellement, ce sont des fonds d'investissement. Hein. Si on compare les chiffres, c'est terrible. Hein. Aux États-Unis, il y a eu à peu près 3 milliards, 4 milliards d'investis dans des startups cyber. En Israël, on atteint 1 milliard. Et en France... on est à 30 ou 40 millions. Donc vous rendez compte l'écart qui s'est produit. Moi, je garde bon espoir parce que les Britanniques, le lendemain du Bataclan, il y a eu un discours historique.
Des attentats du Bataclan.
Des attentats du Bataclan. Le ministre de l'économie et des finances britannique a fait un discours à Cheltenham, qui est pour moi un discours majeur, qui montre la volonté du gouvernement britannique d'aller de l'avant. Et le résultat, c'est qu'il y a quelques entreprises britanniques qui commence à émerger très fortement. Donc dans ces licornes qu'on voit arriver, il y a les premières licornes européennes, malheureusement, elles sont britanniques. Alors est-ce que c'est encore l'Europe?
Et alors, vous dites aussi qu'il faudra la même trajectoire qu'il y a eu avec De Gaulle et le nucléaire, qu'il faudra créer une œuvre commune à partir de la France sur les questions de cyberdéfense et donc de cybercoercition. Là encore, on a les moyens en France.
Alors, je tiens beaucoup à ce mot œuvre commune, hein, puisque moi, j'ai été vraiment, pendant 16 ans, j'étais à fond dedans, puisque mon premier travail a été en étant physicien au CEA, de concevoir les nouvelles armes thermonucléaires françaises. Mmh. Et effectivement, il y avait l'œuvre commune pour nous était vraiment l'œuvre en commun, ouais, de développer tous ces moyens. Et le général de Gaulle a décidé, il y a 60 ans, de lancer la France dans un challenge incroyable quand on regarde l'état de la France à cette époque-là. Et moi, je me dis, si on a une volonté politique, cette œuvre commune, je dirais, de la maîtrise du numérique, ce que j'appelle, la France est capable de la porter. Après, maintenant, c'est clair que quand on voit l'évolution dans la dissuasion nucléaire que vient de présenter notre président, on voit bien qu'on va vers un mouvement européen. Et ce qui est fondamental pour moi, c'est que la France prenne le leadership en Europe sur ce sujet.
Mais pour l'instant, vous ne l'entendez pas.
Si on l'entend, mais pas assez fort. Moi, je pense qu'il faut que cette... Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette vision, on arrive à la partager, à en discuter. Et voilà. Et moi, c'est de par toute mon expérience professionnelle, je suis convaincu qu'on est face à un défi majeur, parce que le numérique, c'est le cœur de nos systèmes.
Merci beaucoup, Bernard Barbier, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est bien terminé, mais évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.
France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique, le monde dans tous ses états.
Avec un invité, toutes les deux semaines, nous allons décrypter, analyser la situation d'un pays au cœur de l'actualité.
Avec nos correspondants et avec nos reporters.
Le monde dans tous ses états, c'est le vendredi soir sur France Info.
Et c'est le samedi soir sur France 24.